Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Retour sur RMC, RMC Story, on est dans Estelle Midi évidemment et on est ensemble jusqu'à 15h et c'est un vrai bonheur d'être avec vous, avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Fatima Benomar et Fred Hermel. On attend bien sûr vos coups de fil au 32-16 pour réagir à ce chiffre. Tiens, 3 Français sur 4 estiment que l'âge idéal de départ à la retraite est de 62 ans ou moins. Emmanuel Macron doit-il écouter les Français? À 13h30 ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50 la Minute Conso avec Stéphane Pedrazzi. On s'intéressera au soutien scolaire, tiens, des astuces pour faire peut-être des économies, en tout cas payer moins cher. À 14h, Pape Ndiaye qui prône une éducation sexuelle renforcée à l'école, pour ou contre. 14h30, RMC s'engage pour vous et Amélie Rosy qui tentera d'aider Alexandra. Elle est assistante maternelle et elle n'est plus payée par les parents de l'enfant qu'elle garde. Elle vit une véritable galère, on essaiera de l'aider évidemment. Et on terminera avec les immanquables, Rémi.
Oui, on parlera notamment de Kylian Mbappé taclé par le patron de KFC, le poulet frit. Et puis on parlera également de viande végétale. Rien à voir entre les deux.
Ah oui. Ouais. On est très cuisine, quoi.
C'est l'heure
midi.
Une certaine forme de cuisine. On va s'intéresser tout de suite dans Estelle Midi au chiffre du jour. Selon un sondage Ifop, 73% des Français estiment que l'âge idéal de départ à la retraite serait de 62 ans. Ou moins une mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron qui lui envisage plutôt un âge pivot à 65 ans, Rémi.
Oui, tu l'as dit, hein, ces chiffres donc sont issus du baromètre que vient de publier l'IFOP. Dans le détail, seulement 11% des Français adhèrent à l'idée d'Emmanuel Macron, donc seraient favorables d'un âge de départ à la retraite à 65 ans ou plus. Une mesure unanimement, on sait, rejetée par les syndicats et donc particulièrement impopulaire dans l'opinion publique, ce que confirme ce sondage. D'après cette enquête, près des trois quarts des Français, 73% exactement, situent en fait leur âge idéal de départ à la retraite à 62 ans ou moins. L'éventail est assez large. Il y a une grande
45,
divergence.
45, c'est bien.
Oui, c'est bien pour toi, je sais, 45. Il y a une grande divergence des opinions entre les différentes générations. Ça aussi, c'est intéressant. Quand 8 Français de moins de 35 ans sur 10, 8 sur 10 de moins de 35 ans veulent un départ à la retraite au plus tard à 62 ans, eh bien, à peine plus de la moitié des 65 ans et plus partagent cette opinion. Bon, bah, eux, ils ont déjà dépassé la date, donc voilà, ça peut expliquer. 40% des seniors se déclarent même favorables à la retraite à plus de 62 ans. Reste que face à la possibilité d'un allongement de l'âge légal de départ à la retraite, qu'on soit d'accord ou pas, eh bien, la majorité se prépare. 72% des Français disent épargner davantage dans cette perspective, et notamment en adhérant à un plan épargne retraite. Et d'ailleurs, les jeunes sont les plus convaincus par cette idée.
Personne ne leur paiera. Donc,
ils ont intérêt à s'y préparer maintenant. Il va falloir travailler beaucoup plus et que s'ils veulent partir plus tôt ou avoir une retraite convenable, il va falloir mettre de l'argent de côté.
Alors, Emmanuel Macron doit-il écouter les Français et finalement ne rien changer ou en tout cas ne pas aller jusqu'à 65 ans, parce que les Français veulent 62 ans, Fred Hermel?
Alors, je veux dire que moi, j'ai pas une réflexion philosophique sur la retraite. J'ai une réflexion purement mathématique. Il y a un système qui s'appelle retraite par répartition. Quand il y a beaucoup de gens qui peuvent cotiser, beaucoup de gens qui travaillent, qui peuvent cotiser, bah oui, on peut partir avant s'il y a moins de gens. Et c'est le cas aujourd'hui, de plus en plus. En plus, les nouvelles générations.
Et c'est dans de 3,3 milliards d'euros.
Oui, tout à fait. Non, c'est pour ça. Après, il faut faire les calculs et les projections. Moi, si on me dit, il y a de l'argent pour, dans les 30 ans qui viennent, je me dis, OK, pas de problème, on touche à rien. Par contre, si on me dit, on va avoir moins d'argent, eh ben, automatiquement, il faut rallonger l'âge de la retraite. Surtout que l'âge de la retraite aujourd'hui.
Ou alors mettre plus de gens au travail.
Ou alors, Et ce qui est très intéressant dans les chiffres qu'a donné Rémi, c'est que ce sont les plus jeunes qui veulent bosser le moins. Bah ouais, mais le problème, c'est que, à un moment, tu pourras pas avoir une retraite si toi tu cotises pas, en fait. Donc c'est ça le problème. Donc, là encore, moi, c'est mon leitmotiv pour toute la protection sociale en France. C'est-à-dire, il faut la préserver. Et pour la préserver, il faut cotiser. Et pour cotiser, il faut travailler. Donc, moi, j'estime que le départ.
Si tout le monde travaillait, on pourrait avoir une retraite à 60 ans.
Exactement. C'est ça, en fait.
Tu peux parler
de
une équation mathématique.
Je suis désolé. C'est bien beau, les grandes. Mais moi aussi, j'adorerais être à la retraite à 50 ans. Bon, je serais déjà, d'ailleurs, puisque j'en ai 52. Mais la question, il faut travailler pour financer une chose qui est merveilleuse. Tu sais, il y a très peu de pays pays au monde qui ont un système de retraite aussi efficace que le nôtre. Parce qu'on a la retraite
d'un système. Ton argumentation ne tient pas pour deux raisons. D'abord, parce que le corps nous dit qu'il y a un petit peu d'argent et que la crise, elle interviendra dans quelques années. Et qu'ensuite, il y aura un creux et qu'une fois que les baby-boomers seront tous morts, les baby boomers, ça remontera et il y aura de l'argent. Donc tu peux pas réduire ça à une équation mathématique. La deuxième chose, c'est que la réforme que propose le président, c'est pas pour financer les retraites. Il l'a dit, ce sera pour financer l'hôpital, la dépendance ou l'éducation.
Ben oui, mais donc tu peux pas. Ça fait partie du temps.
Et ça fait les impôts, Thierry.
Mais moi ça me paraît normal. Excuse-moi, parce qu'à partir du moment où on vit plus longtemps, où on touche sa retraite plus longtemps. Et comme on vit plus longtemps, eh ben on va être en mauvaise santé à un moment ou à un autre.
On vit pas forcément plus longtemps en bonne santé aujourd'hui. Donc il y a une stagnation de l'âge auquel on vit justement en bonne santé.
On ne vit pas plus longtemps en bonne santé, mais on vit plus longtemps. Donc c'est-à-dire qu'il y a une longue période où on vit en mauvaise santé.
Si tu prends ta retraite à 70 ans et que t'es déjà grabataire au moment où tu prends ta retraite, c'est quand même un problème. La retraite c'est fait aussi pour que tu puisses quelque part te reposer et bénéficier de toutes les cotisations ou du fruit de ton travail. Donc si tu peux pas bénéficier du fruit de ton travail, c'est un problème.
On est tout à fait d'accord. Mais le fait qu'il y a un report de l'argent des retraites, des cotisations retraite sur l'accompagnement de la retraite au niveau médical, ça me paraît logique. On vit plus longtemps, donc il faut être mieux accompagné. Donc ça me paraît normal.
Thierry Moreau.
Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, si demain matin on te propose d'être à la retraite, j'ai envie d'être à la retraite. Donc le sondage pour savoir à quel âge on a envie de partir à la retraite, ça me paraît un petit peu fallacieux. Parce qu'évidemment, moi, si demain matin on me dit est-ce que tu veux prendre ta retraite, bah oui, si je peux toucher ma retraite demain matin.
À quel âge, Thierry?
57.
Bon, c'est tout près, 58. Là, quand même. Ouais.
T'as fait ton calcul, t'as fait l'assurance retraite, ça marche très bien.
Oui, à 62, bien, je pourrais prendre 62.
Bah, tiens,
pour l'instant.
L'âge idéal.
Ouais. Pour l'instant.
Ah, non, mais c'est pas pour l'instant.
Mais
là, c'est bon.
On ne peut pas gouverner avec des sondages. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gouverner en se disant les gens ont envie de partir à la retraite à 62 ans, donc on va faire une réforme et on va s'arrêter à 62 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le président, il est face à une contradiction. Sa volonté réaffirmée pendant la campagne de voir un consensus sur cette question et sur la façon globale de gouverner. Et de l'autre côté, le fait d'aller vite, parce qu'il sent qu'il y a des nuages qui vont s'amonceler début 2023 sur d'autres crises, énergétiques, etc., etc. Et donc, il a envie de passer vite au regard d'un amendement. Ce sera pas possible de passer sur une question aussi importante que les retraites si on veut s'intéresser à la pénibilité, si on veut s'intéresser à la question des régimes spéciaux. Ça ne pourra pas passer juste par un allongement via un amendement au détour d'une réforme en octobre. Il faut absolument que cette mesure, on parlait du sondage tout à l'heure, soit acceptable par une majorité de Français, et ça ne passera que par un adoubement des corps intermédiaires et notamment des syndicats réformistes. Et notamment des syndicats réformistes comme la CFDT. S'il a pas cet accord,
même la CFDT, ils disent.
S'il l'a pas, il va dans le mur et il y aura du monde dans la rue et ça va être.
Il va mettre un 49.3 et voilà, c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. Donc de toutes les manières.
Je suis pas sûr que le 49.3 ne provoque pas derrière. Si tu dis les syndicats contre lui, ne provoque pas des gens dans la rue.
Rémi Barré.
J'ai un très bon message de Eric sur Direct Studio. Écoutez les Français sur le sujet des retraites par répartition. C'est comme demander à un gamin s'il veut commencer son repas par une glace vanille.
C'est ça.
Il va dire oui sans réfléchir.
C'est exactement ça. Mais c'est magique. C'est exactement ça. Notre auditeur est parfait.
Mais c'est vrai que c'est pas faux. Fatima Benomar, le sujet des retraites, c'est celui qui risque le plus de pousser les gens dans la rue aujourd'hui?
Clairement, d'autant plus que d'ailleurs à chaque fois historiquement les plus grandes mobilisations sont liées à ça. C'est sûr que c'est quand même quelque chose auquel on tient, parce que bien sûr que les premières années de retraite sont les plus agréables, c'est celles où on est en meilleure santé, et les dernières années dans le travail, si on travaille pendant ces dernières années avant de pouvoir aller prendre une carrière complète, sont les plus pénibles. Donc et surtout qu'on ne comprend pas pourquoi il veut absolument passer à 65 ans. Alors lui, il dit que c'est pour l'équilibre des comptes, effectivement, parce qu'à un moment il arbitre politiquement, il ne veut pas augmenter les impôts sur les plus grandes fortunes. Donc et ce que disait déjà l'année dernière le Conseil d'orientation des retraites, c'était que malgré la crise sanitaire et le vieillissement, il n'y a absolument pas le feu au lac. On va rester, par rapport aux dépenses des retraites, par rapport au PIB, on reste dans une trajectoire maîtrisée. Et le dernier qui vient de sortir là en septembre 2022, il n'est absolument pas plus alarmiste. Il dit qu'il y aura une faible augmentation de 13,8 à 14,2 d'ici 2027, et après on se stabilise voire on descend à cause de sur les dépenses, parce qu'on passe de 60 à 62 ans, et les personnes qui vont partir à 62 ans, ça va renflouer, on va dire, les caisses de retraite.
Après on peut aussi partir avant et pas avoir un taux plein, c'est aussi un choix de vie, hein.
Il faut pas oublier que c'est un progrès, dans le sens où par rapport au pouvoir d'achat des personnes retraitées, qui a baissé en 10 ans de 10%,
c'est-à-dire
que c'est important.
excusez-moi, on va pas pleurer sur les retraités. Non, mais je suis désolée, Fatima, si, je veux bien tout entendre. Bah non, c'est la catégorie sociale en France. Je suis désolée, où il y a aujourd'hui, il y a des inégalités, mais je suis désolée. Aujourd'hui, la plupart, alors bien sûr, il y a des histoires de retraités extrêmement pauvres, etc. Mais je veux dire, la part de gens très pauvres parmi les retraités, elle est de 7%, elle est de 25% chez les jeunes.
Exactement.
J'ai un moment, j'ai aussi juste une pensée pour tous les seniors qui attendent dans la précarité de pouvoir ils attendent l'âge légal de partir à la retraite parce qu'en fait ils ne peuvent plus travailler dans les dernières années et donc ils sont au chômage, ils ne sont ni en emploi ni en retraite et là on va allonger en fait cette période pénible d'entre-deux où en fait ils ne travaillent toujours pas. Et vous parliez tout à l'heure de l'espérance de vie en bonne santé, c'est 8 ans entre les classes les plus aisées et les classes populaires. C'est-à-dire que c'est en plus une inégalité.
En fait, tu vas pas faire partir
une double inégalité.
Oui, en fait, tu vas pas faire une inégalité, je veux dire, sur la traite entre les riches et les pauvres, en disant toi tu gagnes bien ta vie donc tu partiras à 70 ans. La pénibilité, évidemment. Mais je veux dire, tu peux pas faire une, en tout cas, une sélection par l'argent sur la retraite.
En tout cas, il y a des personnes qui vont parce qu'ils sont nés riches, etc., qui vont en plus vivre plus longtemps et en meilleure santé.
C'est une minorité de gens.
C'est très important parce que par rapport à ce qu'on cotise aujourd'hui. Tu touches à peu près ce que tu as cotisé, en moyenne. Mais ça va en, ça
non,
va en
85%.
Descendant. Ça va en descendant. Ça va en descendant. C'est-à-dire qu'il y a encore 20 ans, on touchait, je crois, 110% de ce qu'on avait cotisé.
Fait, ouais.
Et là, dans 20, 30, 40 ans, on touchera 70-80% de ce qu'on a cotisé.
Donc, d'où là, l'intérêt c'est d'ouvrir un plan d'épargne.
Mais, la question est là. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens vont se dire je ne veux plus de la retraite par répartition, je vais dans la retraite par capitalisation, puisque l'argent que je mets dans cette retraite. Et c'est ça le danger. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut garantir la solvabilité du système pour le préserver. Parce qu'à un moment, les gens ne vont plus vouloir mettre de l'argent qu'ils ne vont pas récupérer.
Il n'y a que les fonctionnaires aujourd'hui qui ont le droit d'avoir des systèmes par capitalisation. Exactement. En plus de le système par répartition.
Toi, tu peux l'avoir.
Tu peux mettre de l'argent de côté.
Tu peux l'avoir à titre privé. Mais les fonctionnaires, ils ont des abondements et des.
Exactement. On est avec Sébastien qui nous appelle de Bellegarde, dans le Gard, et qui est taxi salarié depuis 2 ans. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Vous avez quel âge, Sébastien ?
43 ans.
Ah, c'est pas pour demain la retraite ?
Non.
Sébastien, est-ce que pour vous aussi, comme 75% des Français, l'âge idéal pour partir à la retraite, c'est 62 ans ou moins ?
Mais alors, moi, je fais partie des gens qui en ont un petit peu marre de parler de l'âge de départ à la retraite. Parce que, alors, moi, j'ai changé de métier, j'ai été banquier pendant 17 ans.
D'accord.
Aujourd'hui, je suis taxi, je fais 60 heures par semaine. Je prends mon patron qui fait ça depuis l'âge de 16 ans. Fait des métiers, on va dire, il a commencé à bosser à 16 ans, il roule depuis l'âge de 18 ans, il est dans les métiers du transport. À 60 ans, il va s'arrêter, quoi. Parce qu'il ne peut pas aller jusqu'à 65. Donc,
c'est sûr, ça, c'est la pénibilité.
Voilà. Il a la carrière longue.
Ouais.
Et bien sûr, mais c'est pour ça que moi, de voir la retraite que par le prisme de l'âge, je ne trouve pas ça très, très efficace, quoi. Et pour répondre à la question, si Macron passe en force, moi ce matin j'ai écouté les grandes gueules, il va y avoir tout le monde dans la rue, quoi. Donc, alors pas moi parce que c'est pas mon état d'esprit et voilà, moi je suis un petit peu d'accord avec Fred qui dit qu'à un moment donné il faut aussi changer certaines choses parce que sinon on n'y arrivera pas.
Il y a aussi plein de Français qui pensent comme vous, hein, Sébastien, et qui descendront pas dans la rue, hein.
Oui, bien sûr. Mais après, moi, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, avant de parler de la retraite, il faudrait déjà remettre un paquet de Français au boulot et déjà commencer par ceux qui bossent. Si ceux qui bossaient à 100%, déjà, on parlerait moins facilement de retraite.
Bon, en tout cas, c'est sûr que s'il n'y avait pas de chômage, déjà, il y aurait moins de problèmes
et de
à financer
temps partiel.
Les retraites.
Il y a toute une nouvelle génération qui décide de plus bosser. Quoi, tu veux bosser 4 jours par semaine.
Un tiers des femmes qui travaillent à temps partiel, c'est-à-dire qui fait des cotisations partielles, qui vont avoir une retraite partielle.
C'est vrai.
Ça, d'ailleurs, que les plus petites retraites sont celles des femmes.
Et il faut parler aussi des artisans, parce qu'on parlait d'artisans taxi. Les artisans et les cultivateurs, alors là, franchement, c'est terrible, parce qu'ils sont des carrières très longues, très pénibles, et ils touchent peanuts.
On va prendre Sylvain, qui nous a appelé au 32-16 depuis Angoulême, en Charente, et qui est cheminot. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Bonjour.
Rien que le fait de dire que je suis cheminot, je vais me faire taper dessus, mais bon, c'est pas grave.
Sylvain, on est cool avec les cheminots, vous pouvez pas dire ça. Enfin, ça n'est pas quand ils sont en grève, ça c'est vrai. Sylvain, justement, en tant que cheminot, vous partez en retraite à quel âge, vous ?
Ah ben moi, pour moi, ça sera 62 ans et demi, pour annuler toute la décote, contrairement à tout ce que je lui ai dit. Alors quand je suis rentré, effectivement, c'était 55 ans, mais on a déjà subi une réforme pour partir à 62 ans et demi. Enfin moi, parce que je suis de 1970, donc ça sera 62 ans et demi. Et au fur et à mesure, ça sera retardé pour avoir le taux plein.
Ça vous va 62 ans, Sylvain?
55 ans, ça m'allait bien.
Votre pension sera basée sur les 6 derniers mois encore.
Ouais.
Alors, à 62 ans et demi, j'aurai 1400 euros brut. Voilà.
Mmh. Ah, mais vous avez déjà fait le calcul, Sylvain.
Mmh. Ah, comme tout le monde, j'ai accès au site ma retraite, et voilà quoi. Donc, c'est sûr que je suis un privilégié. 1400 euros brut par mois pour. Aller à 72 ans et demi, non, je suis désolé.
Je ne dis pas que vous êtes privilégié, je dis simplement que le calcul se fera sur les 6 derniers mois, alors que dans le privé, c'est les 25 meilleures années. Ouais, et je peux vous dire que les 25 meilleures années,
avant, c'était les 10 meilleures années. Exactement. C'était une réforme récente qui est passée aux 25 meilleures années, donc on va plus dans les années où on a galéré, on avait des moindres salaires.
Oui, ce n'est pas une réforme qui est favorable, bien sûr, aux consommateurs, entre guillemets. Allez-y,
Sylvain. Ce que je voulais dire surtout, c'est que. Alors moi, bon, quand je suis rentré, on m'a dit tu iras 55 ans en retraite. Bon, seulement tu travailleras des week-ends. Comme ce matin, j'ai embauché à 3h, j'ai débauché à midi. Voilà. Donc, et ce que je vois, c'est que nos horaires décalés, parce que on a que des horaires décalés. Je vois beaucoup de collègues autour de moi qui ne passent pas la barre des 65 ans. C'est bien beau de partir en retraite de 62 ans, mais si j'ai que 3 ans de retraite derrière moi, c'est bon, quoi. Et il faut peut-être mettre ça en corrélation avec le fait qu'on n'arrive plus à recruter, parce que les salaires sont de plus en plus bas, parce que maintenant, le statut est tombé.
C'est ça, donc, et qu'il n'y a plus la retraite à 55 ans, bien sûr.
On recrute avec des salaires vraiment bas, en dessous du SMIC, je précise. Donc, c'est hors la loi, mais on recrute en dessous le SMIC et on part de plus en plus tard. Donc voilà.
Ça, je suis d'accord. Après, tout le monde ne peut pas partir à 55 ans. Enfin, c'est absolument impossible, malheureusement.
Non, mais ce que veut dire notre auditeur, c'est qu'il est rentré avec un certain nombre de règles. Les règles en cours de jeu.
Alors que ceux qui arrivent aujourd'hui, là, ils savent que la retraite spéciale n'existe plus pour
eux. Et il a raison, Sylvain, de dire qu'effectivement, il y a moins d'attrait pour le métier de cheminot, de conducteur, quand on vous dit que la retraite, elle sera à 62, voire 63, 64, et non plus 55 ans. Jean-Michel, lui, est cuisinier et nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonjour, Jean-Michel.
Oui, bonjour à tous.
Vous avez quel âge, Jean-Michel ?
Pardon ?
Vous avez quel âge, Jean-Michel ?
55 ans.
Ah, ça se rapproche.
Oui, ça se rapproche, oui. Mais je me bats pas pour moi, là. Ah. Je me bats pour les autres, là.
D'accord. Vous battez pour quoi, Jean-Michel ?
Pardon ?
Vous battez pour quoi, Jean-Michel ?
Ah, mais moi, pour que la retraite reste à 62 ans.
D'accord.
Parce que là, M. Macron a été réélu, on n'a pas donné les pleins pouvoirs avec l'Assemblée. Il a fait un grand discours, où il a dit qu'il allait discuter de tout avec tout le monde. Mmh. Et le premier coup qu'il nous fait à la rentrée, c'est « vous inquiétez pas, je vais vous passer la retraite en catimini, et ce que ça va pas, c'est pareil. » Ben moi je suis désolé, mais là ça va plus. Donc je pense que soit ce monsieur se souvient pas des lichés les jaunes, se souvient de rien du tout, a une mémoire très très courte, peut-être l'Alzheimer, mais ça va pas, faut écouter un peu son peuple quand on est président de la République.
Jean-Michel, c'est la méthode qui vous gêne ou c'est l'âge, Jean-Michel ? On sent que vous êtes très énervé par la méthode.
La méthode est là. Moi, je suis cuisinier. Vous voyez, j'ai eu les deux carpes PMC là, dans les 5 dernières années. J'ai un coude qui est mort. Je sais qu'il va falloir que vous me fasse opérer. Et là, j'ai un rendez-vous pour qu'on voie mon genou si on me met du gel, que j'ai déjà dans le genou, ou si on me met une prothèse.
Oui, donc là, évidemment,
on est beaucoup de cuisiniers dans ce cas-là. On est beaucoup de professionnels dans ce cas-là. Pas que dans la cuisine, dans le métier du bâtiment, partout. De plus, les patrons, ils sont bien gentils. Ils veulent nous faire travailler. Mais par contre, à 55 ans, dès que vous avez des problèmes de santé, on vous dit que vous n'êtes plus bon à rien.
Absolument.
Et on ne vous embauche pas. Alors, on n'embauche pas les anciens, mais par contre, on va les faire travailler jusqu'à 65 ans. Si c'est pour pointer à l'NPU jusqu'à 65 ans, ça ne sert strictement à rien. Vaut mieux nous laisser partir à 62. En plus, on laissera de la place. Moi, j'ai rien qu'un compte quand un jeune vient apprendre le boulot avec moi. Hein ? On leur apprend le boulot, on nous donne un trimestre de cadeaux, ou je ne sais pas. Trouver une solution. Mais les jeunes, ils sont où, là ? Parce que bon, ils ne veulent plus bosser. Là, à l'heure actuelle, ils ne veulent plus bosser.
Non, c'est pas qu'ils veulent plus bosser.
Et Macron leur en a tellement donné pendant 2 ans, ils croient que ça tombe tout cuit dans la poche. Après, oui, mais... qu'ils s'y mettent au boulot. Et tout le monde
après, il n'y a jamais eu autant de Français au boulot depuis des années. Genre, le taux de chômage est très bas.
Dès qu'on sort de l'école ou des machins, on galère, on enchaîne les entretiens d'embauche. Enfin, c'est vraiment non, les entretiens
maintenant,
d'embauche.
Maintenant, t'es embauché direct parce que c'est même les patrons qui sollicitent des entretiens d'embauche.
Après, ça dépend des secteurs.
Aujourd'hui, les salariés.
Mais en tout cas, quand on est jeune, en général, tout de suite, on a envie de remplir le CV. Tout de suite, on fait des stages, etc.
Il y a ça.
Je vais pas dire comme Macron, tu veux du boulot, tu t'as qu'à traverser la rue. Mais c'est vrai qu'il y a plein de postes à pourvoir et le nombre de patrons qu'on a dans cette émission qui disent que ils veulent embaucher. Alors peut-être que les salaires sont pas assez hauts, c'est autre chose. Mais les patrons qui veulent embaucher et qui n'y arrivent pas parce que justement ils n'ont pas de candidats, ça c'est aussi un problème aujourd'hui.
Ça dépend de l'offre et de la demande dans chaque secteur. Effectivement, il y a un rapport de force du côté du patron.
Il y a que ce soit l'informatique, que ce soit la santé,
c'est la mécanique, la grande différence.
L'éducation nationale.
C'est le côté transversal des secteurs qui offre des emplois.
Bah merci en tout cas Jean-Michel pour ce coup de gueule. Voilà Jean-Michel qui est cuisinier, mais Jean-Michel mettait le doigt sur quelque chose d'hyper important, c'est la méthode. Et c'est vrai que là la méthode de vouloir passer en force sur les retraites alors qu'on sait que c'est un sujet ultra sensible, que la période n'est pas propice avec l'inflation. En plus les dernières déclarations de Vladimir Poutine, je veux dire qu'ils nous mettent pas dans un état de sérénité absolu. Le timing est pas bon, la méthode est pas bonne quand même, Thierry, quoi.
Il a raison, surtout qu'on nous avait promis au moment de la campagne, une nouvelle façon de gouverner. On a lancé le Conseil de la Refondation. Alors, à quoi il sert ce Conseil de la Refondation si c'est pas pour parler de questions aussi essentielles que les retraites? Et même au sein du Parti Renaissance, il y a des gens qui aujourd'hui disent attention à la façon brusque d'y arriver.
Oui, mais enfin,
et encore une fois, c'est quelque chose. Tu parlais tout à l'heure de la laïcité qui fait un peu société, qui fait un peu nation. Ouais. Je pense que la retraite, ça fait partie de ces questions-là. C'est-à-dire que, comme tu le disais très justement, les actifs payent pour les retraités, et donc c'est une façon de faire collectif. Ok. Faire passer cette réforme, ou en tout cas modifier un truc aussi important que ça, au travers d'un amendement via un projet de loi au mois d'octobre, sans tenir compte de la pénibilité, parce que pour l'instant on ne sait pas ce qu'il y a dedans, sans tenir compte des régimes spéciaux, parce qu'on ne sait pas s'ils vont être arrêtés, c'est quand même un peu gonflé.
Évidemment. On va terminer avec Sébastien qui nous appelle de Moussan de l'Aude et qui fait un métier exceptionnel. Sébastien, c'est le premier producteur de tapenade qui nous appelle dans cette émission. Ça va, Sébastien?
Oui, ça va.
Quel beau métier, producteur de tapenade, noire, verte.
Un peu de tout.
Oh là. Bon, écoutez, je vous donnerai mon adresse juste après, hors antenne. Sébastien, vous vouliez parler de la retraite. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit tenir compte des Français ou pas du tout?
Pas du tout.
Ah d'accord.
Pas du tout. Il doit tenir compte de ce qui est juste. C'est-à-dire déjà, premier point, enlever tous les régimes spéciaux. Absolument tous.
Il essaye, mais c'est compliqué.
Second point, si c'est 65 ans, pas de problème. C'est tout le monde à 65 ans. Les années de cotisation, public, privé, c'est fini 6 mois pour le public et 25 ans pour le privé. Faut se les cogner, les 25 ans. Sachant que, en plus, il faut quand même le savoir, c'est que les caisses complémentaires du privé ne sont pas déficitaires. C'est les caisses complémentaires du public qu'il est. Donc, on nous fait travailler plus longtemps, pour ceux du privé, plus ou moins, pour essayer de compenser la dette des caisses complémentaires du public.
Alors après, c'est le système par répartition, c'est la solidarité, vous voyez, Sébastien.
Il faut les mêmes règles pour tout le monde.
Si on parle de solidarité, tous les Français doivent être solidaires et cotiser tous pareil.
Oui, mais d'accord, mais Sébastien, vous savez très bien que le boulot de fonctionnaire, alors on a des avantages, effectivement, peut-être plus de vacances, etc., mais c'est globalement moins payé que le privé.
Si je puis me permettre.
Voire faut hausser les salaires dans
le. C'est dommage de dire tout le monde. Tout le monde a la même enseigne et d'harmoniser par le bas, c'est-à-dire que par rapport aux meilleures années de cotisation, est-ce que vous trouvez normal qu'arrivé à 62-63 ans, notre pouvoir d'achat baisse brutalement? C'est-à-dire que si on cotise selon, par exemple, la dernière meilleure année ou les 5 dernières années, c'est à l'image au moins de la progression de carrière qu'on a, et au moins on ne chute pas de plusieurs étages au moment de la retraite, alors qu'on a atteint des dépenses de loyer, etc. Donc on paupérise en fait les personnes quand on allonge cette durée. Donc moi je préférerais plutôt qu'on s'harmonise sur les règles qui sont sur les fonctionnaires que l'inverse.
Bon, en tout cas, merci Sébastien de nous avoir appelé, d'avoir été avec nous sur RMC dans Estelle Midi. C'est un débat qui déchaîne les passions, hein, les retraites. On va voir ce que ça donne sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Retraite à 62 ans, ce serait l'âge idéal pour les trois quarts des Français. Emmanuel Macron doit-il écouter les Français, Rémi?
Bah, c'est oui.
Ah bah oui.
Bah, 80% de ceux qui ont voté sur nos réseaux sociaux.
Allez, dans un instant, le zapping, le meilleur d'RMC. Faut-il être plus ferme avec les conducteurs sans assurance? On parlera également de la crise de l'énergie. Doit-on accentuer les aides aux entreprises? Et puis, faut-il sanctionner les rendez-vous médicaux non honorés? Puis on parlera également du baiser, tiens, un bisou. Quelle est la durée idéale pour un bisou? Je vous laisse réfléchir pendant cette courte pause.
Du bisou.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Fatima Benomar et Fred Hermel. Et on va tout de suite commenter les meilleurs moments d'RMC ces 24 dernières heures. Voici le zapping, c'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on commence tout de suite avec un extrait des GG. Faut-il être plus ferme avec les conducteurs sans assurance? En Seine-Saint-Denis, 2000 accidents sont provoqués par des conducteurs qui n'ont pas assuré leur véhicule. C'est un record en France. Mais pour Olivier Truchot et Étienne Lébig, le système répressif actuel a des effets pervers.
On a quand même inventé, mais un système totalement répressif qui crée des effets pervers. C'est-à-dire, à force de vouloir enlever des points aux gens, effectivement, on se retrouve avec ce système où il y a 700 000 personnes en France qui roulent sans assurance.
En Seine-Saint-Denis, la moitié de la population est chauffeur Uber et l'autre moitié est livreur, Deliveroo ou Amazon. Donc en fait, non seulement on se prend des prunes toute la journée, donc de toute façon, on gagne plus d'argent avec ces boulots-là, et en plus, tu te fais retirer automatiquement le permis, et t'as bien besoin de bosser pour...
Fred Hermel, il faut être plus ferme avec ces conducteurs qui roulent sans assurance, ou même sans permis d'ailleurs.
Bah oui, sinon ce sont les autres qui payent. Voilà. D'ailleurs, déjà, il y a un fonds, quand il y a un accident, il y a un fonds
de solidarité
par rapport à nos assurances, pour justement les victimes d'accidents de chauffards sans assurance. Donc, ça se paye. Quoi qu'il arrive, ça se paye. Donc, moi, je préfère que tout le monde paye et que je paye un petit peu moins.
Non, mais alors, on fait quoi, en fait?
Eh bien, on est encore plus sévère. C'est tout, je suis désolé, quoi, à un moment.
C'est ça.
Vous êtes d'accord avec ça, Thierry?
Ah oui, complètement. Moi, j'ai assisté à une séance d'un tribunal où il y avait des gens sans permis, sans assurance, etc., qui repartaient avec des amendes de 200-300 euros. Je trouve ça absolument inadmissible. Je pense qu'il faut être beaucoup plus sévère, parce que, comme le dit Fred,
c'est quoi, plus
de toute façon, on le paye.
C'est un retrait de permis, c'est une amende, c'est quoi?
Eh ben, ça veut dire que ça peut être une amende beaucoup plus forte.
Ben voilà.
Ça peut être un permis.
Que ça coûte moins cher de payer l'assurance, parce que si tu pars avec 200 euros, ça coûte moins cher qu'une assurance à l'année.
C'est ça. Donc, c'est pas possible. Et puis, n'oubliez pas, parce que moi, ça me fait rire quand ils disent que c'est les effets pervers du premier appoint. Je rappelle ces statistiques sur le nombre de permis qui sont retirés chaque année. C'est une infime minorité. C'est quelques centaines sur les dizaines de milliers qui sont consécutifs à des retraites petits points.
Oui.
Ce sont des grands déliroutiers qui font qu'on perd son permis aujourd'hui.
Ok, Thierry, mais alors là, il parlait des chauffeurs Uber, par exemple.
Alors ça, c'est un autre dossier.
Quand tu fais 100 000 km par an, tu as plus de chances d'avoir un retrait de points que quand tu fais 1 000.
Tout à fait. Mais si tu respectes le code de la route, tu n'auras pas de retrait de
points. Peut-être qu'il faut adapter le permis à points. C'est-à-dire faire que quelqu'un qui est professionnel de la route, alors je pense même aux commerciaux qui sont finalement des professionnels de la route, des chauffeurs de taxi, etc. Peut-être faire qu'ils aient plus de points sur leur permis parce qu'ils ont plus de chances. Mais parce qu'ils roulent plus. Plus tu roules, plus tu as de chances de.
Enfin, il y a une règle. On respecte le code de la route, on perd pas de points.
Ah mais d'accord, sauf que eux, c'est leur métier d'être sur la route. Donc,
alors, tu vois, là, on passe à autre chose. On passe à des entreprises multinationales qui foutent une pression absolument hallucinante sur leurs livreurs pour qu'ils fassent 60, 70 courses, 80 courses par jour. Là, c'est un problème et là, il faut agir.
C'est ça.
Mais on n'est pas dans la même catégorie. On respecte le code de la route, on n'a pas de problème.
C'est qu'en fait, sur la question des particuliers, je suis d'accord pour le durcissement et on avait déjà eu ce débat-là. Mais sur la question des VTC, il faudrait voir effectivement si sa thèse est la bonne, c'est-à-dire s'il y a une surreprésentation, j'imagine quand même en Seine-Saint-Denis, de chauffeurs Uber, etc. C'est-à-dire, est-ce que c'est un système qui les pousse à enfreindre la loi?
Parce
que je vois, moi, par exemple, moi, je ne conduis pas, mais je suis à vélo, je le vois, les pauvres livreurs Uber, etc., qui sont à vélo, ils grillent tous les feux, ils ont l'air d'avoir une pression monstre, et j'imagine que pour répondre à leurs besoins de survie, quand ils perdent leur permis, pour ceux qui sont en voiture,
là,
ils transgressent quand même.
L'assurance, c'est pas qu'ils perdent leur permis, c'est qu'ils ne veulent pas payer l'assurance parce que c'est trop cher. Mais il y a aussi un truc, c'est que effectivement, la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus jeune de France, et il est vrai qu'on commet plus d'infractions souvent quand on est jeune.
Ça dépend, ce sont justement l'enquête que je demande, c'est plutôt des particuliers ou est-ce que c'est des personnes, d'ailleurs souvent primo-arrivantes, primo-migrantes, etc., qui sont préposées, on va dire, à ces systèmes de livraison qui mettent effectivement une pression monstre sur les sur les conducteurs.
Oui, tu l'as précisé. Il y a une différence entre le permis et l'assurance. On peut perdre son permis parce que on y a la pression de l'employeur.
Mais t'as plus de permis, t'as plus d'assurance non plus. Hein.
Oui, mais non, mais l'assurance, c'est, je veux dire, excuse-moi, enfin, l'assurance, c'est l'assurance. Quoi. Là, tu la perds pas, tu la payes, tu la perds pas.
Il y a des certains assureurs qui ne veulent plus t'assurer.
Bah oui, mais pourquoi? Mais parce que tu conduis comme un cinglé.
Oui.
Donc à un moment, on a. Oui. Franchement, si je suis un peu comme Thierry, je suis basique, je suis désolé quoi. Si tu conduis bien, eh ben tu perds pas tes points.
Après, il y a quelques assurances qui te virent après quelques sinistres mineurs.
Ouais.
Moi, j'ai eu le cas dans ma famille.
Aussi, bah oui.
Plusieurs sinistres mineurs. Il te vient. Mmh. Donc c'est aussi un problème.
Le face-à-face RMC ce matin, crise de l'énergie. Faut-il accentuer les aides aux entreprises? À ce jour, 300 entreprises sont aidées par l'État sur 150 000 entreprises menacées par la crise énergétique. Il faut aller plus loin pour Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, en aidant également les salariés. Il était l'invité d'Apolline ce matin.
Je pense que toutes les entreprises n'ont pas encore vu le mur qui était devant elles en termes de difficultés énergétiques. Mais c'est bien que ce plan existe, c'est bien qu'on ait un plan de soutien aux entreprises. Il faut un plan de soutien aux entreprises sur la facture énergétique, mais ça peut être très vite assez monstrueux en termes de dépenses. Mais il faut aussi un plan de soutien aux travailleurs qui vont être concernés.
Il va y avoir du chômage technique, il va y avoir des entreprises qui vont s'arrêter, notamment quelques semaines parfois.
Il faut qu'il soit pris en charge à 100%, comme on l'a fait pendant le Covid. On avait un dispositif qui s'appelait l'allocation partielle longue durée, mais il faut que pendant les périodes où les entreprises fermeraient ou réduiraient leur activité pour surcoût de l'énergie, eh bien les travailleurs soient assurés de toucher leur rémunération, parce qu'ils n'y sont évidemment eux non plus pour rien.
Est-ce qu'il faut aider les entreprises, Thierry Moreau? C'est compliqué hein, comme débat, parce qu'à un moment, l'État ne peut pas aider tout le monde non plus.
Je suis entièrement d'accord avec Laurent Berger. Aujourd'hui, ce n'est pas normal que des salariés soient victimes de la crise de l'énergie. Donc, il faut que l'État soit là. Là, on parlait tout à l'heure de solidarité. Il faut que la solidarité fonctionne. Alors après, taxe sur les surprofits, paiement de tranches supérieures plus importantes pour les gens qui ont beaucoup d'argent, etc. On trouve des moyens de financer. Mais aider aujourd'hui les entreprises, et en particulier les TPE, les toutes petites entreprises ou les PME, c'est indispensable. Sinon, on va détruire le tissu qu'on a commencé à reconstruire ces dernières années.
Comment tu fais pour aider encore 150 000 entreprises? C'est le quoi qu'il en coûte?
Tu fais comment? Je pense qu'il faut une certaine forme de quoi qu'il en coûte sur l'énergie.
À terme, c'est moins cher.
Si on a à terme, c'est moins cher.
Parce que les entreprises qui ferment, absolument, c'est les gens qui sont
c'est
au chômage.
C'est du chômage. Et ça coûte encore plus cher.
C'est ce que le gouvernement n'a pas hésité à faire durant la crise Covid. Emmanuel Macron en tête. Non.
Fatima.
Il y a aussi, je pense, un enjeu de rénovation thermique, c'est-à-dire que aider des entreprises qui sont, et pour y avoir longtemps travaillé, dans des tours, ou alors qu'il y a la canicule dehors, on grelotte à l'intérieur parce que, tu comprends, il y a un système sur toute la tour, on ne peut pas réguler par étage. Donc effectivement, si l'État...
Mais ce n'est pas ces entreprises-là, on parle des entreprises de production, par exemple. On sait que dans la verrerie...
Mais plus tu aides, moins tu pousses les entreprises à faire une réforme thermique.
Mais là, je pense qu'on parle des entreprises qui, de par leur outil de production,
l'un n'empêche pas l'autre.
Beaucoup d'énergie.
Beaucoup d'entreprises dans des tours aussi. Donc l'entreprise, c'est pas homogène.
Mais là, on parle des entreprises avec des coûts de production qui sont multipliés par 10.
Aussi aider la campagne, c'est plus des hangars que des tours, hein, quand même. Il y a plus de TPE en hangar que d'entreprises en tours.
Les GG, faut-il sanctionner les rendez-vous médicaux non honorés? Alors que la France connaît une forte pénurie de professionnels de la médecine, de plus en plus de patients prennent la liberté de ne pas se rendre à leur rendez-vous. Certains praticiens proposent donc de faire payer les consultations non honorées, à l'image du doc des GG, Jérôme Marty.
Il faut savoir quand même que 28 à 30 millions de rendez-vous non honorés, c'est 2 rendez-vous à 5 rendez-vous par médecin et par jour. C'est l'équivalent de 4 000 à 8 000 médecins sortis du soin. À un moment où on en a tous besoin, sortis du soin. Quand tu ne te présentes pas à un rendez-vous, tu voles ce rendez-vous à quelqu'un qui peut-être en a beaucoup plus besoin que toi. Sur l'argent, je vous mets à l'aise. De suite, qu'est-ce qu'on dit? On dit cet argent, il ne va pas au médecin. Hein. Cet argent, il va à l'assurance maladie qui va le mettre à un fonds pour la gestion des déserts médicaux, fonds qui sera géré par la profession. C'est ça qu'on dit.
Oui.
On ne dit pas que c'est pour enrichir les médecins. Et quand on dit pénalisation...
Écoute.
Pénalisation d'un euro, deux euros, c'est le gouvernement. La balle est dans son camp. Le gouvernement choisira ce qu'il veut. Il prendra la solution qu'il voudra.
Jérôme,
mais il faut résoudre ce problème.
Jérôme.
Et il y a déjà beaucoup de médecins en fait qui blacklistent des patients qui ne sont pas venus à leur rendez-vous et qui ne se sont même pas excusés. C'est ça le problème, c'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui la médecine c'est en libre service et c'est absolument scandaleux. Faut faire payer ces rendez-vous non honorés, Thierry.
Ah oui, je trouve que l'idée de Marty d'avoir un ou deux euros de pénalité, je trouve ça très très bien. On est dans une incivilité, mais Alors, on parle des médecins parce que c'est un sujet qui a été abordé dans les GG ce matin, mais les gens, par exemple, qui réservent dans trois restaurants en même temps et qui ensuite n'honorent pas, évidemment, parce qu'ils vont que dans un restaurant sur trois, et qui ne préviennent pas, par exemple. Eh ben, le restaurateur, il peut pas donner cette table.
Il y a des restaurants qui prennent des empreintes de carte bleue à plus de 6
bah oui,
désormais.
Bah oui.
Et souvent, les restaurants appellent maintenant.
C'est un problème d'éducation. Moi, j'avais un rendez-vous hier que j'ai pas pu honorer pour déposer un objet chez quelqu'un. J'ai envoyé un petit mail pour dire excusez-moi, je suis obligé de reporter à aujourd'hui, je vais cet après-midi. Et la personne m'a fait un message en me disant merci vraiment, c'est élégant de dire. Comme si ça se perdait. Enfin, alors que j'ai fait juste un truc normal. J'ai dit voilà, je déplace mon rendez-vous d'hier à aujourd'hui. Ça devrait être effectivement. Enfin, c'est un problème d'éducation. Et ça, ça fait partie. Et on en parle souvent sur ce plateau et avec Rémi et tout ça, des incivilités, des petites incivilités. Ça fait partie du savoir-vivre ensemble. Quand on va pas chez quelqu'un, on n'honore pas le rendez-vous. On prévient avant.
On fait payer, Fatima?
Il y a la différence entre incivilité, c'est-à-dire que je donne mon exemple parce que j'ai dû justement annuler un rendez-vous encore hier. Déjà, il y a un premier problème, c'est déjà le temps d'attente déjà pour avoir un rendez-vous chez un médecin. C'est vrai que ça, c'est toute une histoire. Du coup, j'étais malade.
À cause aussi des gens qui avaient rendez-vous la dernière fois.
Pour le coup, je crois pas. Moi, j'ai eu une rage dedans il y a 2 semaines. J'ai demandé un rendez-vous chez mon dentiste qui m'a donné rendez-vous donc hier parce qu'il pouvait ou alors c'était en journée, je dis bah non, je suis désolée, je travaille. Et hier, il y a une réunion qui s'est internisée au boulot, donc évidemment j'ai appelé. Et donc il m'a donné rendez-vous le 4 octobre. Donc là j'ai dit écoutez, je vais essayer de trouver une autre solution. C'est vrai que donc pour ce qui est de la civilité, c'est sûr qu'il faut prévenir, c'est quand même la moindre des choses. Et puis c'est vrai que quand même ça reste une galère et je crois pas que ce soit forcément lié aux personnes. Ça y participe, mais je pense qu'il y a un problème plus global
forcément.
Sur les temps d'attente.
Le médecin dit que c'est 2 à 5 rendez-vous par jour. Par médecin, ça fait donc quasiment une heure de dégager par jour.
Parce que par exemple, sur Doctolib, aujourd'hui, tu prends rendez-vous chez n'importe quoi, chez le dermato, et tu peux cocher une case en mettant « Voulez-vous être prévenu s'il y a un rendez-vous se dégage pour vous ?» Eh bien, t'as rendez-vous dans un mois, je peux te dire que le lendemain, tu vas avoir un coup de fil. Dans la semaine,
de toute façon, là, j'ai dû annuler à la dernière minute parce que, il se trouve qu'au travail, il y a une réunion
très importante.
Mais c'est pas ça qui va dégager forcément la séance.
Mais si, parce qu'il peut prendre quelqu'un entre deux rendez-vous, avec ton rendez-vous.
Tu peux avancer dans la salle d'attente. T'attends pas. En fait, dans la salle d'attente, le truc, c'est que là, au lieu d'attendre, Madame Benomar, etc., il sait que tu viens pas, donc il va prendre quelqu'un plus tôt, etc. Donc, il va passer plus de temps avec un patient.
Mais là où tu as raison, c'est vrai que j'ai été étonnée qu'elle m'appelle la veille en me disant est-ce que vous venez toujours demain? Et donc j'ai dit oui. Et finalement, non.
Frère Hermel.
Tout à fait d'accord. D'autant plus qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies rendent ça très facilement, en fait. Je veux dire, quand tu vas sur Doctolib, la veille, on te rappelle ton rendez-vous, etc. Non.
On te le rappelle bien, ça.
Mais c'est très bien.
Non, mais le manquer, c'est impardonnable.
C'est tout. C'est simplement, après, on peut avoir des problèmes.
Donc, en fait, les pénalités, c'est si on prévient pas. C'est ça, exactement. Même à la dernière minute. Alors, il faudrait pas pénaliser des pauvres gens.
Comme Thierry, c'est un truc normal de la vie en société.
Être poli, même si t'es pauvre. Enfin, écoute, Fatima,
c'est ce que j'ai dit. C'est qu'il s'agit pas de pénaliser des personnes parce qu'elles ont dû annuler à la dernière minute.
Non, faut formaliser ça. L'éducation, voilà. Et puis, quoi, 2 ou 3 euros. Non, il faut faire payer le prix de la consultation.
Ça.
Pourquoi 2 euros? Parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais, c'est que 2 euros, j'en fous.
Mais quand tu vas chez une psy, par exemple, alors, et la psy, si tu viens pas.
C'est 48 heures avant.
Elle te fait, oui, mais si c'est 24 heures avant, je peux dire, elle te fait tout payer. Mais parce qu'ils sont pas conventionnés. Donc, c'est tarif libre.
Une saison chez Lacan de Pierre Rey où il explique que Lacan, si tu ne le prenais pas 48 heures avant, tu payes.
Enfin, il a bon dos, Lacan.
500 francs la consultation. Okay, quand même, mais bon. Je vous conseille ce livre d'ailleurs, Une saison chez Lacan.
Allez, dans un instant, on parlera d'éducation sexuelle. Il y a plus de 85% des élèves en France qui n'ont pas leurs 3 heures de cours annuels d'éducation sexuelle. Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation, veut renforcer ses cours. Est-ce qu'il a raison ou pas? Vous nous donnez votre avis au 32-16. Dites-nous votre enfant a eu des cours d'éducation sexuelle à l'école, au collège ou au lycée. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
13h49 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure de parler conso avec Stéphane Pedrazzi.
RMC, Estelle Midi,
la minute conso.
Et le mercredi, c'est le jour des enfants, c'est le jour de l'école. Oui. Stéphane, on va donc parler de soutien scolaire parce que de plus en plus de familles prennent des cours de soutien pour leurs enfants.
Et oui, un lycéen sur trois, un collégien sur cinq prennent des cours de soutien scolaire. Le chiffre est en augmentation, surtout depuis la crise sanitaire, parce qu'avec les périodes de confinement et les fermetures d'écoles, les familles sont très inquiètes par rapport au niveau scolaire de leur enfant. Résultat, chez la plupart des sociétés qui proposent du soutien scolaire, la demande a augmenté de 30% depuis le début de l'année, en tout cas par rapport à l'an dernier.
Et combien est-ce que ça coûte les cours de soutien scolaire? Parce que ça paraît toujours extrêmement cher.
Alors c'est relativement cher, ça dépend du niveau de l'élève, de la matière et de la qualification du professeur, mais il y a une moyenne, c'est 37 à 38 euros de l'heure pour un cours individuel en présentiel.
Ouais.
Chez le leader du marché, c'est le groupe Academia, l'heure de cours va de 43 à 61 euros pour un élève du primaire à la terminale. Et chez Superprof, ça commence à 25 euros pour un cours dispensé par un étudiant et ça peut dépasser les 50 euros pour un professeur agrégé, donc du simple au double. Mais ça a l'avantage de vous proposer des tarifs accessibles en vous donnant accès à des étudiants qui sont capables de donner des cours à des enfants.
Oui, enfin, quand même, il vaut mieux avoir un prof agrégé qu'un étudiant.
Ça dépend de ton budget.
Oui, mais c'est ça le problème. C'est qu'en fait, pour un budget moins, on te donne quelqu'un qui est moins qualifié. Donc...
Et aujourd'hui, il y a une autre différence entre le prof agrégé et l'étudiant, c'est le cours en ligne ou le cours en présentiel.
Eh ben oui.
Les cours en ligne, généralement, sont moins chers. Ils se sont évidemment beaucoup développés pendant la crise sanitaire, mais objectivement, les profs nous disent que rien ne remplace le cours en tête-à-tête avec un élève, surtout dans certaines matières comme les maths.
Oui.
En revanche, c'est plus adapté le cours en ligne pour des cours de langue où il y a beaucoup de conversations et ça fonctionne généralement mieux avec les adultes puisque les enfants, et ça ne vous aura pas échappé, se dissipent et se déconcentrent plus facilement que les adultes. Quoique.
Alors là, on est au début de l'année scolaire et beaucoup de parents se demandent si c'est le bon moment pour prendre des cours de soutien. Est-ce qu'il faut démarrer au début de l'année ou attendre que l'enfant aille mal?
Alors évidemment, si on demande aux entreprises qui proposent du soutien scolaire, ils nous disent qu'il faut démarrer dès maintenant.
Ben oui,
c'est mieux de le faire tout au long de l'année.
Pendant les vacances,
ils m'ont expliqué de manière très sérieuse qu'il ne faisait pas de miracle et que si vous attendez trop longtemps que votre enfant décroche et qu'il a accumulé beaucoup de lacunes à quelques semaines des examens, ça ne servira pas à grand chose. Sachez que la moyenne en France est de 40 heures de cours privés par an et par enfant, toutes matières confondues, donc en gros ça fait 1 heure à 1 heure et demie par semaine et ça représente tout de même un budget de 1500 euros par an avant déduction fiscale.
Et oui, car les cours de soutien bénéficient justement d'un avantage fiscal et ça c'est important.
50%, ça veut dire que si vous dépensez 500 euros pour donner des cours particuliers à vos enfants, vous pouvez récupérer 250 euros à condition évidemment que le prof soit déclaré. Si vous payez un étudiant au black, ça ne fonctionnera pas.
Et d'être imposable,
non, justement, parce que c'est une déduction, c'est pas une déduction, c'est un crédit d'impôt. C'est toute la nuance, parce que si votre foyer effectivement est non imposable, eh bien l'administration vous remboursera directement ce montant, donc ça n'est pas réservé uniquement aux personnes qui payent des impôts.
Et c'est bien de le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que comme ils ne payent pas d'impôts, ils ne peuvent pas avoir accès à cette réduction, c'est bien de le rappeler. Est-ce que vous avez des conseils? Moi j'en ai un, il y a des tutos qui sont hyper bien faits aujourd'hui en maths sur YouTube, et moi j'ai halluciné de voir à quel point c'était facilement compréhensible, etc. Faut tomber sur les bons, mais normalement, les élèves le savent.
Ouais, ça fait partie des cours gratuits, on va en parler. Alors, conseil, ne pas attendre la dernière minute, on l'a dit. Expliquez à votre enfant que c'est pas une punition, qu'il faut pas avoir peur, qu'il faut pas avoir honte, que les cours vont l'aider à surmonter ses difficultés. Faites en sorte que les cours soient efficaces. On l'a vu, c'est un budget important. Donc, essayez d'installer votre enfant dans un environnement favorable à l'apprentissage. Ça veut dire pas de télé, pas d'enfant qui joue à côté, surtout pas de téléphone portable. Ça paraît être des conseils de bon sens, mais des profs m'ont expliqué que souvent, les enfants gardaient leur téléphone avec eux, sinon c'était le psychodrame à la maison. En matière de budget, c'est pas parce que vous allez dépenser beaucoup que ça va mieux fonctionner. Le nombre de cours, le nombre d'heures de cours est forcément limité par la capacité de concentration de vos enfants. Vous savez qu'un enfant en bas âge, en tout cas d'une dizaine d'années, n'a qu'une concentration d'environ 40 minutes. Donc c'est inutile de lui planifier 3 heures de cours. C'est censé s'allonger chez les ados, mais ce que disent les psys, c'est qu'avec l'utilisation des écrans et des téléphones portables en particulier, la durée de concentration chez les ados a même plutôt tendance à régresser. Donc, pas 3 heures de cours d'affilée. Et puis, dernier conseil, très important, si vous n'avez pas le budget pour donner des cours particuliers à vos enfants, eh bien, renseignez-vous, il y a des cours gratuits en ligne ou en présentiel. Alors, évidemment, il y a les tutos YouTube, mais effectivement, il faut savoir faire le tri. Le premier réflexe, c'est de contacter l'établissement scolaire de votre enfant, parce qu'en règle générale, ils sont capables de vous orienter vers des solutions d'aide. Allez voir le site du CNED, vous savez, le Centre National d'Enseignement à Distance, CNED.fr, il propose des cours gratuits pour les moins de 16 ans. Alors, il y a des conditions, mais c'est intéressant d'aller voir. Et puis, certaines entreprises de soutien scolaire proposent une liste de cours et de sites gratuits. Et je tiens vraiment à dire chapeau, parce que pour eux, c'est quand même une forme de concurrence. Et malgré tout, il vous donne une liste de structures et d'associations. Donc bon esprit, c'est le cas notamment de superprof.fr. Donc allez voir sur leur site, il y a pas mal de références.
On parlera de quoi demain, Stéphane ?
On va parler de sobriété énergétique et des applications qui vous permettent d'effectuer des économies. Vous savez, on vous dit tout le temps, si vous baissez le chauffage un peu comme ici, de 1 degré,
mais ça il est fait bien baissé, là. Là, on est à 12.
La facture de 7%, mais des applications vous permettent d'économiser en fait sur plein d'autres points que vous ne soupçonnez pas forcément.
Ça, ce sera demain avec vous, Stéphane, 13h50 dans Estelle Midi. Stéphane, quand vous étiez un tout petit peu plus jeune, vous avez eu des cours d'éducation sexuelle à l'école ou pas ?
Alors, je me souviens qu'il y avait un truc un peu chelou en classe de 4e.
Oui, alors un truc un peu chelou, bah, écoutez, c'est pas génial, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, mais chelou parce que c'était avec des animaux, on nous expliquait des trucs un peu bizarres. Non, mais entre animaux, Estelle.
Ah oui, oui, alors on est totalement hors sujet. Parce que sachez, Stéphane.
Mais la reproduction, aquatique,
etc. Mais on parle pas de reproduction, on parle de coup d'éducation sexuelle.
Ah bah non, mais j'ai pas
tu sais que la sexualité, c'est pas juste la reproduction,
mais
Stéphane.
Moi, je suis pratiquement né sous De Gaulle, moi, c'était interdit.
Écoutez, en tout cas, on parle d'éducation sexuelle à l'école dans un instant. Le ministre de l'Éducation nationale veut renforcer ses cours. Normalement, il y a 3 heures par an, mais enfin, il y a 85% des élèves qui n'ont pas accès à ces 3 heures, ce qui est quand même un peu embêtant. Pour ou contre ce renforcement de l'éducation sexuelle à l'école, on vous attend au 32-16. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.